18h sonne et vous écoutez Curiosité, la quotidienne de Prune qui s'attarde sur la vie locale, culturelle, associative, sociale et politique. Jusqu'à 19h, la rédaction de Prune va à la rencontre des acteurs qui s'expriment, créent, militent, mobilisent et administrent notre territoire pour en dresser un portrait du lundi au vendredi. Curiosité, c'est maintenant sur Prune 92 FM et prune.net.
Bonsoir, je suis le professeur Max et vous écoutez donc Curiosité sur Prune, l'émission qui vous apporte la culture juste avant la biture du vendredi soir. Bon alors, si je comprends bien, le centenaire du 11 novembre va se passer un dimanche. Génial, hein, avouez que c'est pas terrible au niveau symbolique tout de même. Alors depuis une semaine, moi je me demandais quels allaient être les thèmes de l'émission de ce soir. Souvenez-vous, vendredi dernier nous avions deux thèmes bien complémentaires, la rumba et l'excision. Du coup, j'appréhendais. Je m'attendais à des sujets du style négationnisme et disco, fashion victim versus la charia. Et bien finalement, ce soir, vous aurez droit au recyclage et à la bibliothèque vivante. Bibliothèque vivante. Oui, vous avez bien entendu. C'est un concept original qui se passe à Nantes. C'est proposé par l'association Très Portrait. Dans cette curieuse bibliothèque, les histoires ne sont pas racontées par des livres, ce serait trop simple, mais par des personnes en chair et en os. Ce concept me plaît déjà, on va vite en savoir plus car ils sont invités dans cette émission. Avec une telle bibliothèque, j'attends avec hâte l'exposition sur le célèbre dessinateur érotique Manara. Attention toutefois, si vous entrez dans cette bibliothèque lors d'une rétrospective des 11 000 vierges de Guillaume Apollinaire... Méfiance. Guillaume Apollinaire, oui, donc qui avait écrit les 11 000 vierges. J'en ai d'ailleurs un exemplaire chez moi. Je l'avais acheté 3 euros, une affaire. Eh bien, Guillaume Apollinaire est décédé il y a 100 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Apollinaire était un vrai Européen, authentique fils de prostituée italienne et d'un soldat polonais. Il fut emporté par la grippe espagnole des suites de sa blessure à la tête, car il s'était battu pour la France.
Si vous étiez de bons Français, vous seriez mort pour la France.
C'est mot pour mot ce que dit le général Pétain au bataillon de mon arrière-grand-père maternel pendant la Grande Guerre. Pétain que Macron a tenté de recycler cette semaine. Il est vrai que Macron est le spécialiste du recyclage, lui qui a composé son parti avec tous les troisièmes couteaux et fonds de cuve issus de tous les partis politiques. Hein. Mais le recyclage n'est rien sans la motivation de chacun, chers auditeurs. Le cas de Manuel Valls prouve qu'avec la volonté, on peut se recycler, se réinventer sans cesse. Vous l'aurez compris, on va parler recyclage ce soir avec l'apéro zéro déchet.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Eh bien, c'est une initiative de l'association nantaise Zero Waste. Mais je voudrais aussi saluer l'initiative de la mairie de Nantes, qui a su associer recyclage et humanisme. Mais oui, normal, ils sont de gauche. La mairie de Nantes a eu l'idée il y a 2 semaines de placer des gravats sous le pont du quartier Mangin. Eh oui, des gravats, de sorte que plus aucun migrant ne dort sous les ponts. Oh, quel progrès ! Le comble du comble, c'est que Mangin, eh bien, c'était ce général de l'infanterie coloniale, l'homme qui a convaincu l'état-major français d'avoir recours, je cite, à la force noire lors de la Grande Guerre. Ah bah décidément, ces commémorations sont mal parties. Hein. Tout cela mériterait le Francis Kunz Award de l'humanisme. Hein. C'est vrai que c'est un prix qui n'existe pas, mais ça aurait de la gueule. Alors, chers auditeurs, si vous avez chez vous des gravats, des débris de verre, tout objet contendant, vous ne savez pas quoi en faire, contactez la mairie de Nantes. Donc tout de suite, nous revenons sur nos premiers invités, puisqu'il s'agit de Patricio Rojas et Natalia Lindado, donc de l'association Très Portrait. Ils sont interviewés par notre reporter de choc, Clément.
Merci, professeur.
Comprendre un nouveau projet, en savoir plus sur une initiative, se saisir de la vie locale, nous recevons des invités chaque jour dans Curiosité.
Merci professeur. Le monde bouge et nous, la question est posée par l'association Très Portrait que nous recevons ce soir. Peut-on accueillir toute la misère du monde ? Autre question posée, si cette formule de Michel Rocard donc, est souvent utilisée, elle rappelle aussi que la dure position de la France en matière de migration n'est pas si récente. Donc nous continuons ce soir notre focus sur Radio Prune concernant donc, le Festival des Solidarités qui se déroule à Nantes donc, du 3 novembre au 2 décembre. Coordonné en Loire-Atlantique par la Maison des Citoyens du Monde, le festival se propose cette année de traiter la question migration et développement. Alors tout le monde connaît le principe d'une bibliothèque, même toi professeur, à ceci près que les livres parleront. Deux membres ce soir de l'association Très Portrait sont avec nous. Donc bonsoir Natalia Lindado.
Bonsoir.
Et Patricio Rojas.
Je ne suis pas membre de l'association.
D'accord.
C'est l'association qui organise.
Oui.
Et je vais être l'un des livres. Mais d'accord. Je ne fais pas partie de l'association. Je ne suis pas organisateur.
Ok. Natalia, voilà. D'où vient cette bibliothèque vivante? Le projet, il vient d'où?
Oui, alors c'est un projet qui était conçu à Danemark, en fait, par l'ONG Stop the Violence. Et le but, c'était justement de donner un visage, en fait, aux histoires qu'on entend dans les médias, qu'on va circuler aussi aux stéréotypes. Et puis de mettre l'humain au centre, finalement, des discussions. Et donc ce projet, en fait, il était vite répandu en Europe, il y a eu plusieurs événements qui se sont déroulés. Et cette fois-ci, c'est l'association Très Portrait qui essaye de le faire à Nantes, avec un petit plus. C'est que cette fois-ci, ce n'est pas que les personnes concernées, en fait, qui vont donner leur parole, mais c'est aussi des chercheurs et chercheuses et des citoyens engagés, en fait, pour la cause des migrants. Qui vont venir témoigner en fait de leurs connaissances et de leur expérience. Et ça fait le petit plus en fait de cette bibliothèque en particulier.
Et comment c'est donc il y aura 12 intervenants, c'est cela?
Oui, il y a à peu près 12 intervenants, donc tant des personnes directement migrants, comme par exemple moi et Patricio, ou des chercheurs, des chercheuses, ou des citoyens qui ont été par exemple des hébergeurs solidaires.
Donc, quels sont il y a des profils très différents. Patricio, vous intervenez dans quelle mesure, dans quel cadre? Vous témoignez?
Je me suis prêté au jeu et lors de la présentation du projet, on nous a suggéré différents axes de présentation. Et donc moi, j'ai choisi l'axe combien coûte un migrant et combien il apporte. Enfin, combien j'ai coûté et... Est-ce que j'ai apporté quelque chose à la France?
Quel est votre parcours à vous personnellement?
Je suis d'origine chilienne et j'avais 22 ans lorsque je suis arrivé en France. Et j'en ai 66 maintenant, c'est-à-dire que j'ai vécu 44 ans en France.
Vous, quel éclairage vous apportez dans l'échange, dans le cadre de la bibliothèque vivante? Votre parcours personnel
Par exemple, dans un domaine bien concret, combien j'ai goûté et qu'est-ce que j'ai apporté? Et ici à Nantes, ici à Radio Prune, vous avez reçu plusieurs fois des associations, des slameurs. Vous avez fait même la promotion d'une rencontre annuelle qui s'est déroulée déjà 11 années de suite. Donc l'année prochaine, ça va être la 12e année qui va se dérouler, cette rencontre de slam poésie régionale à Nantes. Au terrain neutre théâtre, le TNT, et l'association qui est à l'origine, ou l'une des associations qui est à l'origine de ce festival, c'est une association que j'ai créée en 2005, qui s'appelle D'encre et de lumière pour la promotion de la poésie et de la photo. Donc moi, ancien réfugié politique chilien, qui a été secouru pendant une période de mon séjour en France, en 2008 pour la première fois, voilà, on a lancé ce festival au TNT. Mais il n'y a pas que ça. En 2001, le responsable de la programmation musicale du bar du Lieu Unique à Paris a découvert dans un café le slam poésie. Ça n'existait pas à Nantes. Il a proposé au Lieu Unique d'emporter le slam poésie. Donc à partir de décembre 2001, au bar du Lieu Unique, le dernier jeudi du mois, il y avait du slam poésie. Qui était l'animateur? Il n'y en avait pas à Paris. Donc le Lieu Unique faisait venir un animateur de Paris, le président de la Fédération Française de Slam Poésie, Pilote Léote. Donc lui, il animait cette soirée du dernier jeudi du mois. Je suis allé au bar du Lieu Unique pour la première fois en 2003. J'ai découvert cette technique d'animation. Le concept m'a plu. Cela faisait des années que... j'allais dans différents endroits pour essayer de dire ma poésie. Et partout, on me disait, est-ce que tu as publié? Est-ce que tu as fait des études, etc. Non. Donc, je n'étais pas médiatisé. Je n'avais pas le droit à la parole. Et là, au Lieu Unique, au slam poésie, on avait droit à la parole. Et en plus, une fois que vous aviez dit votre poème, la maison vous offrait un verre. Donc, en 2003, je suis allé pour la première fois. Et l'année d'après, en 2004, en discutant avec l'animateur qui venait de Paris, en discutant avec le programmateur du bar du lieu unique, je leur ai dit, écoutez, j'ai trouvé un bar où j'ai déjà fait des animations de poésie. Et là, j'envisage de lancer une scène, pas parallèle, mais bon, en même temps que celle du lieu unique. On y va.
Alors.
Et donc, j'ai lancé la première scène ouverte de poésie hors lieu unique. 3 ans plus tard, le lieu unique a arrêté les slams poésie parce qu'il avait déjà pris dans la ville. Des Nantais s'étaient emparés de cette nouvelle pratique et l'avaient développée à Nantes. Et qui était l'un des initiateurs, l'un des pionniers qui a participé à cette activité?
C'était vous.
Exact.
Alors, on a parlé slam, maintenant c'est la transition idéale pour faire une première pause musicale avec What the World de Funky Bijou.
Yeah!
C'était What the World de Funky Bijou. Nous sommes avec Clément, notre reporter de choc, ainsi que Patricio Rojas et Natalia Lindado de l'association Très Portrait qui vont nous rappeler un peu ce concept de bibliothèque parlante. Enfin, vivante, je crois.
Vivante. À Natalia Lindado, quel est le concept de la bibliothèque vivante?
Oui, alors c'est une bibliothèque qui fonctionne comme une bibliothèque classique. En fait, à l'entrée, il y a un catalogue, enfin, il y a une photo, une description de chacun des livres. Et les lecteurs, ils peuvent choisir quel livre ils souhaitent découvrir. Ensuite, il y a un bibliothécaire qui va l'amener, enfin, selon la disponibilité des livres, qui va l'amener.
Il y aura des cartes de prêt, si j'ai bien compris.
Oui, il a des cartes de prêt, justement. Et donc, on peut dire au lecteur, ce livre, il n'est pas encore disponible, vous voulez attendre ou découvrir un autre. Et puis, on va les amener donc, vers les livres, donc vers nous. Et là, on a un temps d'échange entre 10 et 20 minutes, en fait, où le lecteur, il va écouter le récit du livre, mais il peut aussi poser des questions, faire des commentaires. Voilà. L'idée, c'est aussi d'entraîner un dialogue entre deux personnes.
L'un des objectifs de ces dialogues, c'est de déconstruire les préjugés, stéréotypes sur, sur les migrants, sur la question des migrants. Donc, je vous pose la question à tous les deux. Quels sont aujourd'hui ces stéréotypes à déconstruire, selon vous, Natalia?
Et bah, par exemple, justement, moi, dans mon livre, je parle des bons et des mauvais migrants. Donc, moi, je m'attaque à cet stéréotype qui veut faire paraître tous les migrants comme musulmans, pauvres, pas éduqués, des hommes, etc. Et justement, c'est parce qu'une fois, quelqu'un m'a dit que je n'étais pas une vraie migrante, en fait, que ça ne comptait pas.
C'est-à-dire?
Parce que je suis colombienne et que je suis blanche et que je suis éduquée, tout ça. Donc ça me fait justement m'interroger sur c'est quoi en fait un migrant et pourquoi on l'associe toujours à quelque chose de négatif. Donc du moment où on est éduqué, du moment où on apporte des choses, disons, parce que même les personnes qui ne sont pas éduquées, ils peuvent apporter beaucoup de choses. Pourquoi à ce moment-là, ça ne compte plus? Donc ça, c'est le stéréotype auquel je vais m'attaquer, mais il y a aussi des autres stéréotypes. Par exemple, les migrants, ça coûte cher. Et ça sera plutôt Patricio, je pense, qui va l'aborder.
Patricio?
Oui, par exemple, je suis arrivé en France avec un passeport. Je suis entré librement. À l'époque, les Chiliens n'avaient pas besoin des visas pour entrer en France. Et au bout de 10 jours, j'ai décidé de demander l'asile politique. J'ai fait ma demande, donc j'étais prise en charge.
Vous étiez déçu de Pinochet, quoi.
Voilà. Et donc, j'étais prise en charge par l'association France Terre d'Asile, comme j'étais demandeur d'asile politique. Alors, du coup, j'étais hébergé dans un foyer des jeunes travailleurs. La nourriture m'était payée par l'association France Terre d'Asile. Et on nous donnait, à l'époque, 10 francs par jour pour nos déplacements. À l'époque, en région parisienne, l'abonnement mensuel pour les transports en commun n'existait pas. Et c'était assez cher de se déplacer, surtout lorsqu'on était logé à la périphérie, à l'extérieur de Paris. Donc là, cette période durait 3 mois reconductibles, 3 mois supplémentaires. J'ai eu le droit d'asile politique au bout des 3 mois. Mais je suis resté au foyer pendant 6 mois. Donc pendant ces 6 mois, j'étais assisté par l'association France Terre d'Asile. Une fois que je suis parti du foyer jeune travailleur, j'ai eu une bourse d'études. Comme je n'avais pas de famille en France et que j'étais inscrit à l'université et que j'avais obtenu le statut de réfugié, j'avais droit à faire une demande de bourse. J'ai eu une bourse de 600 francs pendant 3 mois. En parallèle, je m'étais inscrit, à l'époque ça s'appelait Agence Nationale pour l'Emploi, pour suivre une formation professionnelle. Au Chili, j'avais fait 3 années de physique, mais en France, je n'ai pas réussi à poursuivre mes études à l'université parce que, si bien je connaissais les français, je l'avais étudié au lycée, je savais l'écrire, je pouvais les lire un peu, mais à l'oral, je ne savais pas les prononcer et lorsqu'on me parlait en français, je ne comprenais rien. Donc du coup, j'ai échoué à l'université. Je n'ai pas été capable de suivre les études à l'université. Par contre, les stages de formation professionnelle, comme il était d'un niveau un peu plus bas que les études de physique que j'avais fait au Chili, je pouvais l'avoir, même sans trop connaître
la langue.
Voilà. Donc, pendant 10 mois, j'ai suivi cette formation professionnelle qui était rémunérée, dans mon cas, puisque je n'avais pas de famille en France, 120% du SMIC. Donc, pendant 10 mois, l'État m'a versé 120% du SMIC. À l'époque, c'était 1603 francs. Et au bout de ces 10 mois, je suis entré dans la vie du travail. Donc, si on fait l'addition, pendant 18 mois, j'étais assisté. J'écoutais à la France. Au bout des 18 mois, je suis entré dans la vie du travail. La date exacte, c'est le 12 juillet 1976. Et j'ai travaillé pendant 40 ans.
Oui, excusez-moi, allez-y.
J'ai fait des contrats à durée déterminée, indéterminé d'abord, ensuite j'ai fait de l'intérim, ensuite j'ai fait de contrats à durée déterminée, et je finis avec un contrat très long à durée indéterminée. Entre deux contrats ou entre deux missions d'intérim, j'ai eu des temps de chômage, mais jamais suffisamment long pour toucher des allocations. Ce n'est qu'en fin de carrière, au bout de 39 ans et demi, que je me suis trouvé avec 6 mois avant la retraite. Et donc, ces 6 mois, il y avait des délais, des choses. J'ai touché une allocation de chômage pendant 4 mois et demi. Donc, d'un côté, il y a les 18 mois de prise en charge au début, 40 ans d'activité professionnelle, et puis, au bout, 4 mois et demi d'allocation de chômage.
D'accord. Mais écoutez, Patricio, on va vous garder. Ce bilan me plaît. Je pense que la France est gagnante. Tu veux rajouter quelque chose, Clément ?
Non, pas du tout. Je vais juste dire que ça se passe donc demain à l'espace Cosmopolis. De 16h à 18h.
Tout à fait.
Voilà.
Alors, je voulais préciser aussi à Natalia qui se posait des questions sur le préjugé du mot migrant, qui était un mot nouveau, en fait, qui correspond à la vague migratoire d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc, c'est pour ça que les gens n'associent pas la Colombie, en fait, avec le mot migrant, quoi. Donc, tout de suite, on va faire la pause cadeau.
Nous cherchons un mot de 8 lettres qui va commencer par la lettre R.
Écrivain, E-C-R-I-V-A-I-N.
Oh. Ça fait 100 à rien pour l'instant, Mathilde. Allez-y.
Votre intérêt est satisfait par curiosité ? Laissez-nous aussi vous gâter avec la pause cadeau sur Prune 92FM et sur le www.prune.net.
Ah, c'est notre petit défaut, c'est qu'on veut, qu'il y ait du rythme, c'est tout.
Lundi 12 novembre à 20h, Parcells sera à Stéréolux et le concert est complet. Dommage. Hein. Mais vous avez de la chance. Aujourd'hui, si on vous propose de gagner vos places pour le concert de Parcells ce lundi prochain donc à Stéréolux. Parcells donc c'est donc 5 Australiens qui incarnent réellement leur musique, des enfants spirituels des Beach Boys de qui les Fab Five, ont hérité la science des harmonies vocales et de Nile Rodgers. Tu sens la prononciation du fan qui connaît son sujet. Donc, Nile Rodgers qui leur a infusé l'essence même du funk. Ils ont fait les plus grands festivals et ont été en collaboration avec le duo Daft Punk. Ah, quand même. Le groupe livre une musique au rythme électronique qu'ils expérimentent avec succès. Le mot d'ordre, pure love, pure joy. Alors, pour jouer, appelez le standard dès maintenant au 02 40 12 09 12. Envoie 02 40 12 09 12. Premier arrivé, premier servi. On va s'écouter tout de suite un morceau du groupe, alors j'espère bien le prononcer, Tied Up Right Now.
Just wait a while. The one I need is tied up right now.
Vous êtes bien sûr Prune 92 FM, c'est l'émission de Curiosité. Tout de suite, la boîte de panda, c'est-à-dire la pause humour.
La boîte de panda. En ce moment, sur Nantes, c'est une véritable galère de trouver un appart. Genre, le ratio doit être à 1%. Un appart libre pour 100 Stéphane Plaza en herbe. Une location dans l'agglomération nantaise, c'est une denrée rare, je vous jure. Alors, forcément, quand on a mis une annonce pour trouver un nouveau coloc pour partager notre appart cette semaine, les réponses n'ont pas tardé. On a reçu tellement de mails, autant que de sauterelles dans l'Ancien Testament, autant que de livreurs Deliveroo dans les rues piétonnes, autant que de fois où tu ouvres la boîte de médicaments du côté de la notice, autant que d'enfants qui ont joué à regarder l'âge dans leur verre à la cantine, autant que de boutons d'acné dans une classe de quatrième. Bref, beaucoup, beaucoup. Nous avons donc dû, mes colocs et moi, trier ce déluge de réponses. Alors, forcément, au départ, on était sur des critères objectifs. Oui, bon, Robert Salomé est trop jeune. Et Patrick Raoul est trop vieux. Et Christine Agnès n'a pas de travail, c'est compliqué pour être sûr qu'elle reste. Augustine René a un chat, on veut pas d'animaux. Et puis, Édouard Philippe a l'air politiquement relou. Jusque-là, rien de très surprenant. On a également éliminé tous les gens qui se présentent pas ou ceux qui débutent leur présentation par « Votre bien m'intéresse, en effet, de par sa location situationnelle et sa superficie intéressante. » Voilà. N'empêche qu'avec tout ça, il nous restait encore beaucoup trop de réponses. Alors quand je dis beaucoup trop, il faut imaginer que pour chaque personne, nous allons devoir la rencontrer, faire une visite de l'appart, se présenter, boire un verre qui coule l'alcoolisme mondain. Bref, ça représente beaucoup de temps. Certes, c'est un investissement vu qu'ensuite on va devoir habiter avec la personne choisie. Mais on peut vraiment pas rencontrer tout le monde malgré tout. Du coup, je vous propose un jeu. Je vous cite des phrases clivantes qui ont permis à ces personnes de passer dans la colonne « Rencontre à prévoir » ou dans la colonne « Prévoir réponse négative commune en copie cachée ». Il faut savoir que vu le nombre de retours, on a dû monter le niveau d'exigence à folie malsaine et possiblement psychiatrique. Alors, une phrase, vous me dites si oui ou non je vais rencontrer cette personne. J'essaye de lire sans donner d'indice. Donc, Kylian Henry. Je kiffe mon taf, il est putain d'extra challengeant.
Compliqué.
Compliqué, hein.
Très compliqué.
Je n'ai pas compris le contexte cognitif de sa séquence verbale.
Non, bah du coup, non, on va pas le rencontrer, hein, pas besoin de mettre la barre trop haut d'ailleurs. Je veux tout simplement pas vivre avec quelqu'un qui s'exprime comme dans un clip de Nakamura. Ensuite, on a eu Victorine Cassandra. J'adore le ciné, faire la cuisine et manger, smiley qui sourit, la musique, mais aussi les soirées calmes.
Il y a la cuisine.
Bah, oui. Au moins, ouais.
Non, mais sérieusement, qui peut dire « je n'aime vraiment pas la musique, ni le ciné, je hais manger et je déteste être parfois au calme
». Je suis agoraphobe, xénophobe.
Ouais, non, c'est next hein, pour cette chère Victorine Cassandra qui me semble être une personne peu originale. Ensuite, on a Marcelin Victor. « J'aime le ciné, la musique, cuisiner et les jeux vidéo ».
Jeux vidéo, c'est mort. C'est pas possible.
Eh bien non, notamment parce qu'on a pété la télé, hein, voilà. Et qu'il a des chances que Marcelin Victor ramène la sienne. Bon, j'ai pas dit que c'était rationnel, hein. Alors, Georges Cyprien, j'aime, blablabla, comme d'habitude, hein, vous aurez compris. Et aussi les voyages à l'autre bout du monde.
Bah, qu'il y aille.
Eh bah tout à fait. Non mais c'est le syndrome Tinder là. Voyager en Thaïlande pour te mettre une mine monumentale sur une plage paradisiaque. Ne fais pas de toi quelqu'un d'intéressant, Georges Cyprien. Recalé. Clémentine Yvette. J'adore la musique et ça tombe bien. En plus j'ai bon goût.
Très bien. Et l'accordéon surtout. Clémentine Yvette.
Et oui, évidemment, le panache de Clémentine Yvette a payé. Et c'est bien normal.
Oh, mon Dieu.
Top liste direct. Ensuite, on a eu Paul Achille. Je me lève en général vers 8h30-9h, sauf le week-end plus tard, vers 10h. Et je me couche environ vers 22h30-23h30, ça dépend des soirs.
Trop sérieux.
Un petit vieux.
Pas surprise. Hein.
Eh ben non, parce que tout simplement, j'ai pas envie de savoir quand Paul Achille fait popo. Léonard Titouan, qui nous a dit « Je suis scout et j'ai 19 ans ».
Ouais, déjà c'est mort. Voilà, la présentation, c'est pas possible.
Ouais non, j'ai pas besoin d'expliquer. Next. Thérèse Cunégonde. Je parle couramment anglais et je me débrouille en italien.
Bah ouais, c'est pratique pour des voyages.
Elle se la pète.
Bah, ce serait croate, malgache, ça changerait rien parce que c'est pour une coloc, hein, pas pour un job. On fait un casting du part. Et que c'est quand même bien relou, hein, quelqu'un qui te dit « Hey, ciao, Bella, did you sleep well tonight ?» Le matin, juste au lieu de dire « Ouais, salut, mec. »
Ça, c'est le nouveau monde, ça.
Et alors, dernière, Isaline Marjolaine, qui nous dit « Je sors juste d'une rupture, entre parenthèses, oui, ok, c'est pas hyper vendeur.
» Génial.
Je sors d'une rupture.
Eh ben, une rupture, ça arrive à tout le monde. Et Isaline Marjolaine a l'air de prendre du recul. Et puis surtout, quoi de plus efficace pour créer des liens que de casser du sucre sur le dos de nos ex? Bienvenue dans la shortlist, Isaline Marjolaine. Alors, je précise, hein, j'ai changé les noms des protagonistes pour des questions de droit à la vie privée, de ridicule, de confidentialité et tout ça. Dans quelques semaines, si tout se passe bien et que personne n'écoute la boîte de Panda, croisons les doigts, j'aurai bientôt un ou une nouvelle colocataire et je suis sûre que ce sera une personne super gentille. Enfin, j'espère vraiment en tout cas parce que ce casting fait ressortir le pire de ma personnalité.
Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite, Louise. Quant à moi, ça va, moi j'habite boulevard de Doulon, mon quartier est chic, hein. Les clodos sont français quand même. C'est un signe. Eh bien, on va se faire une petite pause musicale. On va écouter tout de suite les Jungle... Enfin, pardon. On va écouter Balako et son titre Jungle Music. C'était Jungle Music de Balako. Alors nous sommes toujours sur Curiosité à Prune et là nous allons recevoir notre deuxième invité, Nicolas Grammatico de l'association Zero Waste Nantes. Alors je lui dois une excuse parce que j'avais fait une boulette en début d'émission, je l'avais présenté comme le recyclage. Et pas du tout, c'est beaucoup plus malin que ça puisqu'en fait c'est la prévention en amont de notre production de déchets. Et nous avons notre intervieweur de choc pour mener l'interview. Quentin, c'est à toi.
En moyenne, en France, nous produisons 354 kg de déchets ménagers par an et par habitant, soit 23 718 000 tonnes en tout. Mais ce n'est pas tout. Si l'on compte les déchets municipaux, en plus des déchets ménagers, donc c'est-à-dire les déchets municipaux, ce sont les déchets des collectivités et également une partie des déchets d'activité économique, ainsi que les déchets professionnels, ce chiffre culmine à 13,8 tonnes par habitant par an. 13,8 tonnes, juste pour la France. Alors imaginez ce que ça peut faire dans le monde entier. Et ces déchets ne sont évidemment pas tous recyclables. En plus de cela, il y en a beaucoup qui viennent salir nos rues, polluer nos océans ou encore nos forêts.
Égorger d'office nos campagnes.
Alors en 1997, une association a été créée pour dire stop à cette pollution. Zero Waste France. Cette association est une association holacratique qui a pour but de réduire au maximum le nombre de déchets que nous produisons. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Nicolas Grammatico de Zero Waste Nantes, une branche locale de Zero Waste France. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors, pour commencer, j'ai parlé d'une organisation holacratique en introduction. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation holacratique ?
Bah justement, je me le suis noté pour préciser, parce que c'est pas forcément quelque chose de très, très connu et très parlant. L'holacratie, en fait, c'est simple. C'est tout le contraire d'une organisation pyramidale avec un grand chef en haut qui donne les directions et que tout le monde applique. En gros... par exemple, dans l'association, on a un bureau qui va définir l'orientation stratégique de l'association et on va s'organiser par commission qui vont gérer des projets bien spécifiques. Et chaque commission est indépendante du bureau. Ce qui fait que tout le monde a du pouvoir finalement, tout le monde a le droit de proposer des idées, de les appliquer. Et donc, c'est tout le contraire d'une organisation pyramidale et c'est ce qui nous fait avancer, je pense, plus vite et ce qui intéresse aussi les gens.
En parlant de vos projets, vous pouvez nous les présenter ?
Oui, bah je vais en présenter quelques-uns parce qu'il y a pas mal de choses à faire sur la réduction des déchets. Notamment, là, juste après l'émission, je vais assister à une réunion qui va tenter de préparer les prochaines fêtes des écoles zéro déchet. Donc l'idée, c'est de réduire les déchets utilisés pendant les fêtes des écoles. Typiquement, les gobelets en plastique, qui sont un vrai, vrai fléau. Donc ça c'est ce qu'on va préparer pour le mois de mai 2019. Après on a des actions aussi au niveau des stop pubs qui sont des trucs très faciles à mettre en place sur sa boîte aux lettres mais très difficiles à faire respecter, notamment pour ne pas les citer par les agences immobilières. Donc on travaille là-dessus pour essayer de sensibiliser un peu tous les gens qui distribuent des prospectus sans trop faire attention à la volonté des gens qui ont mis un stop pub. Parce qu'en général, quand on met un stop-pub, c'est qu'on n'a pas envie de recevoir. Et du coup, quand on reçoit un prospectus, c'est directement à la poubelle. Donc au recyclage, comme disait le professeur. Mais ça, le recyclage, nous...
C'est pas votre partie, ouais.
C'est pas que c'est pas notre partie. On va dire que c'est vraiment le dernier recours, une fois qu'on n'a plus aucune autre solution. Parce que juste pour préciser l'idée du zéro déchet, on va se baser sur quatre piliers qui sont une sorte de guide de vie. On va commencer par refuser. Donc typiquement le stop pub. Ensuite, on va essayer de réduire. Donc réduire, ça peut être réduire les emballages, donc faire ses courses en vrac, par exemple. Réutiliser. Bah, réutiliser, ça peut être, par exemple, il y a le Black Frag Day qui va arriver le 23 novembre. Réutiliser, ça peut être, au lieu d'acheter un dernier iPhone, par exemple, à je ne sais pas combien de milliers d'euros, on va préférer acheter un téléphone reconditionné ou de seconde main. Et évidemment, si le nôtre ne marche plus, attention. Et le dernier, c'est le compostage. Voilà.
Est-ce que l'État est sensible à votre cause ?
Un petit peu, on va dire, puisqu'il y a des lois qui sont en train de passer par rapport à l'interdiction des plastiques jetables.
On va en parler.
Voilà. Donc un petit peu. Voilà.
Donc justement, la suppression des sacs en plastique notamment, ou des pailles aussi, il me semble, de la vente, est-ce que c'est le début du changement ?
Alors, c'est le début du changement. Après, faut voir à quelles échéances ces changements sont souhaités et dans quelle directive. C'est-à-dire, comment dire, avec quelle précision, quoi. Voilà, pour l'instant, on est un petit peu dans les expectatives. On a fait une réunion à Zero Waste France par rapport aux déchets plastiques notamment. Et on est un peu circonspect pour l'instant par rapport aux lois qui sont en train d'être faites. Donc on attend de voir ce que ça va donner.
Vous essayez de sensibiliser la population sur les questions de déchets, mais avec les entreprises, les grandes surfaces ou encore les fast-food qui ne respectent pas les lois, comme on a pu le voir récemment dans Envoyé spécial, la réduction des déchets, ça semble compliqué, non ?
Alors, ça dépend. À l'échelle individuelle, c'est plutôt simple. Je peux vous donner quelques petites astuces extrêmement simples. Moi, je suis venu à l'émission avec ma gourde, par exemple, pour boire de l'eau, tout simplement. J'ai vu que vous aviez une fontaine dans votre radio. Si vous venez, par exemple, avec votre mug, que vous avez forcément un mug chez vous, vous venez avec votre mug, ça vous évite d'utiliser des gobelets en plastique, par exemple, ici. Donc ça va être une action que tout le monde peut mettre en place sur son lieu de travail, par exemple. À la maison, on peut penser aux courses en vrac, qui est le truc le plus, ce qui nous vient directement à l'esprit, ou faire sa lessive maison. Enfin, il y a beaucoup d'astuces pour réduire ses déchets très facilement.
Dans votre manifeste, vous dites vouloir, je cite, recréer de nouveaux modes de consommation. Avec la société de consommation aujourd'hui, c'est un peu David contre Goliath.
Oui. Après, c'est toute une question de volonté. On se bat un petit peu contre le marketing et effectivement la société de consommation, notamment quand on pense au Black Friday. Mais il y a, en fait, je pense que ce qui bloque peut-être les gens, c'est qu'ils ne savent pas qu'il y a des alternatives. On va essayer de mettre en place, nous, pendant la semaine justement du Black Friday, des événements pour montrer qu'il y a des alternatives au neuf. Donc il y a notamment le défi Rien de Neuf porté par Zero Waste France. Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut tout trouver, quasiment tout, d'occasion. Donc quand je dis tout, c'est par exemple les fournitures pour un nouvel appart. On parlait de colocation tout à l'heure. Le nouveau coloc, il va vouloir meubler sa chambre. Est-ce qu'il va aller chez IKEA ou est-ce qu'il va aller, par exemple, à la station service qui est une asso nantaise, où en plus, ce sera beaucoup moins cher. Et ce sera atypique, la chambre... voilà, ce sera une déco atypique.
Alors je propose d'écouter un reportage qu'une de nos bénévoles, Pauline, avait fait justement dans votre association où les gens se rencontrent pour échanger des projets et trouver des solutions.
Tous les mois, les aficionados du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc, les éleveurs de verre en compost, les ennemis du plastique échangent des idées pour réduire leur empreinte sur la planète Terre.
Donc on est à la salle de la Madeleine, qui est une salle municipale qu'on occupe spécialement pour notre apéro zéro déchet, donc apéro mensuel de l'asso Zero Waste Nantes.
C'est Nicolas, bénévole militant pour la cause Zero Waste Nantes, qui nous introduit dans cette réunion où se rassemblent curieux et convaincus.
Je viens parce qu'une copine m'a parlé des apéros zéro déchet et du coup je viens, voilà.
Je viens découvrir le zéro déchet pour connaître d'autres personnes qui sont déjà dans la démarche depuis pas mal de temps déjà.
Ce soir-là, c'est une vingtaine de participants qui font connaissance et échangent des conseils pour réduire le contenu de leurs poubelles.
Aujourd'hui, les gens qui viennent avec une démarche zéro déchet, ils ne viennent pas tous avec le même parcours. Il y en a qui arrivent en effet en se disant « Oh là là, il y a des emballages partout ». Ça pollue la planète, je les vois dans la rue, je les vois dans mes poubelles, j'en peux plus, il y en a trop. Donc ça, déjà, c'est plus l'approche écolo. Il y a une autre partie des gens qui arrivent plus avec un souci de santé. Aujourd'hui, les composants plastiques sont vraiment décriés. Pour certains, c'est dire « Ah, mais je veux pas que mon alimentation, mes nourritures, elles soient en contact avec ce plastique. Et je vais chercher à faire sans ». Et ça, c'est une autre approche du zéro déchet. Et on a vraiment les deux aujourd'hui dans les gens qui arrivent, entre ceux qui veulent vraiment diminuer leurs poubelles et ceux qui veulent fabriquer leurs cosmétiques parce qu'ils ne veulent plus d'un produit plein de plastique, quoi.
Pour commencer, il faut s'équiper de bocaux et de sachets, faire le plein de bonnes adresses de vrac, tester des recettes pour faire des produits ménagers. Les débutants devront s'armer de patience et de persévérance.
C'est pas facile d'expliquer à ma fille, non, on ne va pas acheter des gâteaux suremballés, on en a déjà acheté il n'y a pas longtemps, il y en a marre.
Mais... Oui, mais après, j'ai un accouché à un bébé de 8 mois,
ouais.
Donc c'est compliqué aussi. Hein.
En termes de temps.
Ouais. C'est... Associer tout ça.
Mais Nicolas se veut rassurant.
J'ai pas trouvé cet ingrédient, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas réussi à m'organiser, j'avais pas de bocaux, j'avais pas... Enfin voilà, il y a plusieurs difficultés que tu peux rencontrer, mais l'important c'est de pas s'arrêter aux difficultés.
mais de prendre ça comme une expérience.
Pour certains, aucun renoncement, juste du plaisir.
Ça devient un jeu en fait. Commencer à se dire, bah, du coup, comment est-ce que je vais faire là au niveau du tube de dentifrice, ça ne me va pas, la brosse à dents, ça ne me va pas. Quelles sont les alternatives qui existent? Et donc, du coup, on va rechercher, on va voir qu'il y a des brosses à dents en bambou qui existent, qu'il y a des brosses à dents où il y a juste la petite tête qui est changeable et qui est après réutilisable. Et lorsqu'on va aller regarder des recettes sur Internet, on va dire, bah, voilà, ah, il y a une recette, ok, il faut de l'argile blanche, il faut tel truc, il faut tel truc. Ok, je peux faire mon dentifrice moi-même. On se réapproprie les choses et ça devient un jeu, en fait, de réduire après ces déchets.
Il y a des gens encore plus radicaux qui ont décidé d'arrêter le déodorant. Hein.
Merci pour les autres.
Non, ben non parce qu'apparemment, l'équilibre, moi je n'ai pas osé, mais apparemment il y a un équilibre qui se refait. Des gens même qui ne se lavent plus avec du savon, qui n'utilisent plus rien et qui en fait disent que bon, au début, effectivement, c'est difficile le temps que l'équilibre se trouve et là, il ne faut pas fréquenter trop de gens. Après, ça s'équilibre et finalement, ils trouvent que c'est mieux.
Au-delà des échanges de bons procédés, l'association Zero Waste Nantes veut initier des actions collectives dans les écoles ou les cantines.
C'est vrai que les enfants, c'est souvent des fois par là qu'on se pose la première question. Auprès d'une école, organiser une fête d'école zéro déchet avec des gobelets réutilisables, militer auprès de sa cantine pour faire disparaître les couverts en plastique, les serviettes en papier, revenir au système qu'on avait nous avant, les serviettes en tissu, les couverts en métaux.
Pas fatigué, Zero Waste Nantes part aussi en croisade contre l'éternel gobelet plastique de la pause café.
On essaye d'intervenir un maximum dans les entreprises, mais à destination des salariés. Donc l'idée, c'est d'aller dans les entreprises pour montrer aux salariés qu'il est possible aussi au bureau de changer quelques habitudes pour passer en mode de vie zéro déchet, au moins au bureau. Il y a des petits réflexes à prendre. On pense notamment au gobelet en plastique, à la tasse à café. C'est vraiment des petites choses, mais c'est des réflexes à prendre et commencer la démarche zéro déchet au bureau et finalement l'importer à la maison.
Alors si vous aussi, vous avez du mal à convaincre vos collègues récalcitrants d'opter pour un mug, passez une tête à l'un des apéros zéro déchet pour demander conseil. Prochain rendez-vous, mercredi 5 décembre.
T'as l'impression que c'est du pâté, mais en plus, le miso.
De retour avec Nicolas Grammatico de Zero Waste Nantes. Alors, un moyen de produire moins de déchets et de consommer local, mais avec les puissants lobbies des grandes surfaces, ce mode de consommation est difficile à mettre en place. Comment pouvez-vous agir ?
En fait, ça dépend aussi où est-ce qu'on habite, parce que c'est plus facile quand on est citadin. Je pense notamment à la ville de Nantes, où il y a beaucoup d'alternatives au supermarché. Il y a des petites boutiques telles que Day by Day ou au Bocal. Il y a aussi les magasins bio habituels qui ont un grand rayon vrac en général. Donc il y a beaucoup d'alternatives à Nantes sur les supermarchés classiques. Après, c'est quand on est plus éloigné de la ville, vraiment en campagne, où là, c'est un petit peu plus complexe. Et pour le coup, le réseau vrac tend à s'étendre et à aller vers les campagnes, mais pour l'instant, c'est effectivement un peu plus compliqué en campagne.
Un certain nombre de grandes entreprises du secteur agroalimentaire reportent la faute de la mauvaise gestion des déchets sur le consommateur, alors qu'elles-mêmes ne font pas d'efforts pour produire moins de déchets. Comment pouvez-vous agir face à ces multinationales ?
Par le pouvoir d'achat. En fait, c'est toujours un peu la même chose. C'est que le pouvoir, on a un petit peu oublié qu'on l'avait. Mais finalement, quand on achète un paquet de céréales dans lequel il y a seulement 75% qui est rempli par des céréales et le reste est utilisé pour du marketing, on dit qu'on est d'accord avec cette pratique. Alors que quand on va acheter en vrac les mêmes céréales, même de qualité un petit peu supérieure, parce qu'en général, c'est du bio, on dit j'ai pas besoin d'emballage. Moi, j'achète en vrac, j'achète à mon producteur local. Parce que les boutiques dont je vous parlais tout à l'heure, elles font l'effort de privilégier le local sur les grandes marques ou autres. Donc c'est par là qu'on agit, c'est par le pouvoir d'achat.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de prix aussi ? Est-ce que le local n'est pas plus cher que dans les grandes surfaces ?
Alors il faut comparer ce qui est comparable, parce que c'est souvent ce qu'on reproche à l'alimentaire vrac, d'être un peu plus cher. Après, la chose aussi, c'est que niveau qualitatif, c'est pas la même chose. Si on compare le premier prix de chez Carrefour avec le vrac de Day by Day ou de Bocal, forcément, c'est pas le même prix parce que le vrac, il est en bio à chaque fois. Du coup, la qualité n'est pas la même. Donc forcément, il y a un prix qui est plus élevé. Donc ce qu'il faut comparer, c'est un niveau de qualité équivalente. Donc le bio emballé versus le bio en vrac, et là, on y gagne.
Est-ce que la contrainte de temps pour les particuliers ne joue pas en défaveur de la politique zéro déchet ?
En fait, le temps, on a tous 24 heures par jour et on choisit de les allouer comme on veut. Donc faire ses courses zéro déchet, moi par exemple je le fais à vélo avec des bocaux, je vais au, bon, j'habite en ville quand même, mais ça me prend une heure on va dire pour faire mes courses. Mais finalement une heure, est-ce que c'est pas le même temps que prendre sa voiture, aller la garer au supermarché, faire tous les rayons, peut-être même acheter des trucs qu'on n'avait pas souhaité acheter parce qu'il y a beaucoup de marketing, faire la queue, rentrer chez soi, décharger la voiture, enfin, ça met peut-être plus d'une heure aussi.
Oui, mais une personne qui est par exemple en déplacement toute la semaine, le week-end, elle a peut-être aussi, enfin, elle a peut-être envie de profiter de sa famille. C'était dans ce, plus dans ce sens-là.
Oui, après, on peut commencer la vie zéro déchet par autre chose que les courses aussi. Si on veut profiter de sa famille, si on a des enfants, on peut leur montrer par exemple comment faire une recette de lessive zéro déchet. En achetant, si on n'a pas le temps, on peut acheter ça sur internet, du savon de Marseille, à faire attention, sans huile de palme et sans huile de coco. Donc acheter ça en barre d'un kilo et puis on le râpe avec ses enfants, 60 grammes de savon de Marseille, un litre d'eau chaude, ça fait une lessive. Et voilà, on a montré à nos enfants comment faire le zéro déchet.
Les mentalités, les modes de consommation ont-ils changé depuis la création de Zero Waste Nantes en 1997 ?
Alors en 1997, moi j'étais un peu jeune, donc je saurais pas dire. En tous les cas, ce que je vois, c'est que dans nos apéros ou dans tous les événements qu'on fait, on a beaucoup de gens qui sont très réceptifs à la démarche, qui veulent en savoir plus, qui veulent parfois aller plus loin. Voilà. Après, on a peut-être un petit biais parce que on a toujours que des gens qui sont intéressés qui viennent vers nous. Donc nous, notre objectif, ça va être aussi d'aller vers les gens qui sont pas convaincus. Et là, on verra vraiment si ça a un petit peu changé dans les mentalités et si on a un écho plus favorable.
Et dernière question, est-ce que vous pensez qu'il est réellement possible d'arriver à une société zéro déchet ?
Alors le zéro, c'est ambitieux, c'est un objectif. Après, s'il nous reste que le manche de brosse à dents en termes de déchets, on sera bien. Voilà.
Ok, merci à toi Quentin, merci à Nicolas Grammatico. Moi merci. Je voulais me la péter aussi un peu écolo, puisque j'ai fait, depuis 6 semaines, j'ai arrêté d'acheter en grande surface, j'ai fait les petits marchés. Il y a plein de petits marchés hebdomadaires partout à Nantes. Et alors par contre je voudrais aussi dire qu'il y a une pression sociale sur un homme qui porte un caddie. Pourtant j'ai un beau caddie gris, tu vois, couleur métallisée. Et les gens ricanent, mais bon je tiens bon parce qu'il est juste à côté de chez moi. Et ça permet vraiment en plus d'acheter des bons produits. Rien à voir, en plus ils prennent la carte, donc c'est top quoi.
T'es sûr que c'est du caddie ?
De quoi ?
Que les gens rigolent.
Ouais. Non, je comprends pas ta question. Enfin bref. Bon, eh bien, c'est le moment de se dire au revoir. Au revoir Quentin.
Au revoir.
Au revoir Clément. Au revoir Louise.
Au revoir.
Au revoir Constance. Au revoir Marion, qui est notre nouvelle régisseuse. Et bien sûr, au revoir nos invités. Patricio, merci d'être venu. Donc Patricio est un bon immigré chilien puisqu'il a cotisé pendant 39 ans, il nous a bien cliqué en 2044. Quand bien 44, oula. Donc voilà. Et merci à Pinochet de nous avoir envoyé un bon contribuable. Bref, et donc au revoir à Nicolas Grammatico de Zero Waste Nantes.
Merci de m'avoir aussi.
Toutes les émissions de Curiosité sont à retrouver sur le www.prune.net dans la rubrique Émissions.